Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Roncel au micro Olive Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je vous propose aujourd'hui quelques nouvelles, plutôt de très courts récits d'Ivan Bounine. Ivan Bounine, il est né en 1870 dans la petite noblesse, il a quitté la Russie en 1920, il s'est fixé à Paris, et c'est d'ailleurs à Paris qu'il est le premier écrivain russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933. Voici une de ses petites nouvelles. Ça s'appelle « Sous la faucille et le marteau ». J'avais connu ce vieillard l'hiver dernier au début du règne de Lénine. C'était un hiver particulièrement terrible, le typhus, le froid, la faim, Moscou, sauvage, perdu, se noyer dans la neige. Personne ne sortait sauf extrême nécessité. Je le cherchais quand j'avais quelque chose à lui dire, j'appris enfin qu'il habitait dans cette même maison où se trouvait auparavant l'administration d'État à laquelle il était attaché. Maintenant, cet immense bâtiment était vide et mort. J'entrais par les grandes portes ouvertes, m'arrêtais, ne sachant pas où aller. Par bonheur, un jeune garçon avec un paquet entra derrière moi. Il allait justement chez ce vieillard pour lui donner de la bouillie de millet. Le vieil homme se nourrissait uniquement de ce qu'il lui faisait porter de temps en temps, au nom de leur vieille amitié, le père du garçon. Nous y allâmes ensemble, après avoir pénétré dans l'entresol, longtemps marché dans un souterrain. Nous frappâmes à une petite porte. Elle s'ouvrit sur une cave voûtée, il faisait très chaud. Au milieu de la pièce se trouvait un poêle en fer chauffé à blanc. Le vieillard monta à ma rencontre sur ses jambes tremblantes et me dit « J'ai l'honneur de vous saluer, Boris Petrovitch. » Les yeux décolorés, larmoyants, des favoris gris, le menton couvert de poils épais couleur de lait. Toute la cave était décorée de gravures populaires aux couleurs vives, des saints, des martyrs torturés, des bienheureux, des folles en crise, des vues de monastères, d'ermitages. Tout un coin était occupé par une châsse remplie d'icônes dorées, brillantes, devant lesquelles brûlaient des lampes de toutes les couleurs, vertes, roses, bleues, l'odeur de l'huile des lampes, mélange de cyprès et de cire, et la chaleur du poêle était insupportable. « Oui, monsieur, il fait chaud, » dit le vieillard, en riant tristement. Ce n'est pas comme dans le reste de Moscou, je n'ai pas à me plaindre du froid, je suis oublié de tous, Dieu soit loué, puisque personne ou presque ne soupçonne que je suis ici, sain et sauf. Personne non plus ne sait rien de cette réserve de bois secrète qui est restée dans une certaine cave. Ici, si Dieu le veut, je terminerai bientôt mon existence terrestre. Je suis très affaibli, affligé, des temps sombres et cruels sont venus à nouveau. Je pense que c'est pour longtemps. Ainsi est la Russie. Toute notre histoire, c'est un pas en avant, deux pas en arrière vers l'immémorial de la sauvage rusticité, l'auge cassée, les chaussures de tille. Vous vous souvenez? Tout dans le palais du Kremlin était tellement souillé par les forçats que les garnitures en métal des icônes s'étaient ternies. Ces gouvernances actuelles donnent de temps en temps entière liberté au peuple, à sa férocité, à ses excès. Et le peuple se sert de cette liberté funeste pour lui-même. Le chien qui lèche une scie boit son propre sang et la douceur de son sang l'empêche de sentir le mal qui se fait. Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir cela. Passons à notre affaire, je suis tout à votre service. Que puis-je faire pour vous? Il mourut au printemps. Pendant l'une de nos dernières rencontres, il me dit « Connaissez-vous ce merveilleux récit ?» Un chacal pénétra dans la caverne de Jean le Souffrant et cassa le bougeoir qui se trouvait à l'entrée. La nuit, le saint assis sur le sol de la caverne sombre pleurait amèrement, le visage dans ses mains. Comment accomplir la cérémonie de la prière nocturne, la lecture? Quand il releva son visage, en s'essuyant les yeux avec sa manche, il vit qu'une fine lumière venant d'on ne sait où illuminait la caverne. Et depuis ce jour-là, elle l'éclaira chaque nuit jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il mourut, l'ange de Dieu, en recevant son âme, lui dit avec tendresse, « Jean, c'est la lumière de ton chagrin qui t'a éclairé. » Je vous propose une autre nouvelle, ou plutôt court récit d'Ivan Bounine. Ça s'appelle « Le crucifix ». Par un frais matin de mai, le parvis d'une vieille église de district. Tout là-haut, la grande cloche mugit et vibre déjà, un son cuivré tridule aux oreilles. Dans la cour se retrouvent de vieilles femmes, des mendiants, des pèlerins aux cheveux longs, qui portent, accrochés sur eux des sacs, des brouillards en fer blanc, leur bâton à la main, ils marchent, courbés, avec l'affectation qui leur est coutumière. Dans la cour, il fait encore sombre. Les vieilles femmes s'approchent, s'assoient un peu à l'écart, sur l'herbe jeune, en repliant publiquement leurs jupes sous elles, les jambes étendues tout droit. Les mendiants se laissent tomber sur les dalles de pierre froide près du parvis et les pèlerins vont au soleil derrière l'église. Là où se dresse au-dessus d'une vieille tombe un crucifix en fonte verdie sur un cube. Sur la croix, la tête du Christ couronnée d'épines acérées est inclinée. Sur le cube, un crâne, deux os, deux fémurs croisés. Les pèlerins font des signes de croix, se prosternent, tombent à genoux, les yeux levés là-haut vers le ciel matinal couleur de bleuet. Le soleil éclaire vivement et gaiement la maigreur médiévale du Christ, son ventre creusé, ses longs bras tendus vers le ciel. Il réchauffe les cheveux gris des pèlerins, leur dos rapiécé, leurs ficelles, leurs sacs, leurs brouillards en fer blanc et leurs gobelets. Je vous propose une pause.
Мчится тройка, скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей, едет, едет, едет. Едет к Любушке своей.
Едет, 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 едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней. Едет к Любушке своей.
Вот вдали село большое, сразу ожил мой ямщик. Песни звонкою своей. Едет, едет, едет к ней.
Je vous propose une autre nouvelle de Ivan Bounine. L'incendie. Un riche hameau de paysans. L'incendie avait commencé par un soir d'automne sombre et sec, alors qu'il finissait de dîner. Des malfaiteurs avaient mis le feu au fenil et tout avait brûlé. Le maître de maison, un immense paysan corpulent, restait sans bouger sur le perron. Dans la cour, c'était l'enfer. Ses fils et des femmes criaient comme des fous, tentaient d'éteindre l'incendie. Lui ne regardait que la cour, étrangement illuminée par les flammes rouges. L'étang, devenu un miroir pourpre, et les nuages tourbillons en rose et palpitants éclairés par-dessous. Il répétait sans cesse, très calmement, « Dieu a donné, Dieu a repris, tout ça m'est indifférent, je ne sens absolument rien. » Quand tout eut brûlé, quand le feu fut éteint, il se mit à sangloter des jours entiers sans s'arrêter, couché dans la grange près du portail, sur la paille, le visage tourné vers le sol. Dans l'ombre, par les trous du portail, scintillaient les taches pourpres du soleil et un pigeon blanc, roussi par l'incendie, marchait tout seul, en boitant. À présent, encore une nouvelle d'Ivan Bounin, vieille Russie. Une vieille femme est venue de loin à Moscou. Elle appelle son pays du Nord la vieille Russie. Grande, les hanches fortes, elle est en bottes de feutre et porte un manteau ouatiné sans manches. Son visage est large, ses yeux jaunes, entre des mèches d'épais cheveux gris, un visage du XVIIIe siècle. Je lui demande quel âge allez-vous avoir. 77 ans, mon bon monsieur. Vous ne les faites pas, vous avez l'air encore jeune. Et moi, c'est rien encore. Ce ne sont pas de grandes années, notre père a vécu jusqu'à 100 ans. Elle ne prend pas de thé, elle ne mange pas de sucre, elle ne boit que de l'eau bouillante avec du pain noir, du hareng fumé ou des concombres salés. Et vous n'avez jamais été malade? Non. J'avais des tremblements, c'était un mauvais sort, ça avait fait peur à mon mari. Dès qu'il s'approchait de moi avec amour, ça commençait à me secouer, à me tendre. Qu'elle soit brûlée, celle qui a lâché ça sur moi. Le mot brûlé est l'un de ses préférés. Elle dit très sévèrement des gens sans religion qui n'aillent pas parler comme ça. C'est notre Dieu, pas le leur. Si on pouvait tous les brûler. Ce qu'elle raconte sur sa région natale est grandiose. Là-bas, les forêts sont impénétrables, sombres. Il arrive que la neige soit plus haute que les pins centenaires. Des femmes, des hommes vont promptement dans leurs traîneaux de tille sur des patins ronds en fourrure. Tout le monde porte des touloupes azur en toile teinte avec d'immenses cols droits et des chapes en raide fourrure de chien. Les grands froids brûlent la poitrine, le soleil au couchant joue dans un conte. Il scintille de lilas ou de croix moisies, et parfois habille d'or ou de vert tous les alentours. La nuit, les étoiles sont dans un œuf de cygne. Voici une dernière nouvelle d'Ivan Bounin. Ça s'appelle « Rue du Bazar ». Quelque chose pour la maison ou bien un cercueil? Rue du Bazar, on vend de tout. Il y a des magasins d'étoffes, une horlogerie, une pharmacie, des drogueries, des boutiques de produits coloniaux, de quincaillerie, de vaisselle. Et encore plus loin, tout près du bazar, ces portes pliantes, ces remises sont exposées à l'extérieur, des balais, des cercueils, des pelles, des râteaux, des roues. C'est le mois de juillet. La journée est chaude, la rue est vide. Il n'y a qu'un seul acheteur, un paysan du district. Il arrive de l'église d'en bas. Il saute de sa voiture. Quelque chose pour l'entretien de la maison ou bien un cercueil? C'est pour un cercueil. J'ai une chose splendide, du simple ou plutôt élégant? Oui, bien sûr, quelque chose de bien. Pour qui? Pour un bébé, pour un jeune garçon, pour un grand-père, une grand-mère? C'est pour le père ou la maman? Voilà, c'est ça, c'est pour la mère. Était de bonne taille, de taille proportionnée? Alors il n'y a rien de mieux que ce modèle. À ce qu'il me semble, celui-là est bigrement petit, c'est pourtant vrai qu'elle avait bien dépéri. Un cercueil qui n'est pas de première classe est toujours un peu petit, mais il contient quand même pas mal. Il est solide. Je garantis une complète solidarité, ça suffira jusqu'au jugement dernier. Ouvre le don. Le marchand soulève le cercueil, enlève le couvercle. Le paysan se penche, examine. Non. Il y a une paille, il est défectueux. C'est une main façon, mon cher. Je le prends si tu le baisses de 5. Et encore, c'est bien parce que c'est la mer. Je vous remercie de m'avoir écouté.